Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Salomé Richir-Haldeman. Je suis l'épouse heureuse de David Richir-Haldeman, maintenant, que vous voyez devant, que beaucoup de vous connaissent sous le nom de David Richir. Et je suis donc la nouvelle coordinatrice de Stop Pauvreté, comme j'ai pris début janvier. Je vous parlerai un petit peu plus de Stop Pauvreté tout à l'heure. Mais comme notre nom l'indique, en bref, on essaye donc de stopper la pauvreté en sensibilisant les chrétiennes et les chrétiens au thème de justice sociale et puis de pauvreté. La question, cette question de la justice, elle traverse toute la Bible. Et puis ce matin, j'aimerais vous proposer d'explorer la première mission en fait, que Dieu confie à l'humanité, celle qu'on appelle parfois le mandat créationnel ou le mandat culturel. Et puis on le trouve en deux parties, dans le premier livre de la Bible qui est la Genèse, au chapitre 1, versets 26 et 28, puis au chapitre 2, versets 8 à 15. On va prendre ces deux morceaux à deux moments de la prédication de ce matin. Donc on commence avec le premier chapitre. Est-ce qu'il faut que j'allume ? Ouais, voilà, typique. Super. Donc dans Genèse chapitre 1, au verset 26 et 28, on lit « Dieu dit enfin, faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. » Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Alors ce mandat commence avec Dieu qui dit « Faisons l'être humain comme une image de nous, qu'il soit maître de tous les animaux. » Et puis ensuite, il les créa à son image et les bénit en disant « Peuplez la terre et dominez-la. » Donc souvent, cette histoire de la domination et puis de l'image de Dieu, on les prend séparément. Mais dans ce texte, ils semblent comme liés en fait. Le narrateur passe de l'un à l'autre. C'est parce qu'on est image de Dieu qui domine, et pour dominer, il faut être image de Dieu. Alors on voit un petit peu ces deux thèmes que je vous propose d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être image de Dieu, et en quoi consiste cette domination? Cette phrase de « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même », on la connaît tous, mais on ne sait pas toujours trop quoi en faire. On la comprend avec notre culture, que ça veut dire qu'on partage des traits communs avec Dieu, que sans doute les humains ressemblent à Dieu par leur créativité, leur imagination, l'amour dont on peut parfois faire preuve. Ou pire, on considère que Dieu nous ressemble, ou plutôt ressemble à un homme barbu, sage, puissant. Mais dans le monde antique, et puis pour les peuples de l'Ancien Testament, être à l'image d'eux, ça évoquait d'autres images, d'autres choses, d'autres associations d'idées que je vous propose ce matin. La première, c'était une pratique des rois après la conquête d'un nouveau territoire. Le roi faisait installer son image, souvent une sculpture, sur le territoire qu'il avait conquis, pour montrer qui était le roi sur ce territoire. Cette image, elle remplaçait la présence du roi, ou sa gloire, parfois, on disait aussi. Sur la photo là, c'est une obélisque qu'un roi assyrien avait fait installer sur un nouveau territoire qu'il venait de conquérir, comme une image de sa majesté. Et donc, quand Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu, ils sont créés comme une image du roi pour indiquer qui règne sur ce territoire, pour pointer en fait vers le vrai roi, pour qu'il montre à la terre entière qui est le roi qui règne sur la terre. Donc une première signification d'être à l'image de Dieu, c'est déjà ça. Ça veut dire que nous sommes là pour montrer au monde qui est Dieu, pour montrer au monde qui est le Dieu qui règne. Un deuxième sens possible pour les peuples de l'Ancien Testament, c'était une croyance qui était très répandue dans le monde antique et puis dans les peuples qui côtoyaient le peuple hébreu. C'est cette idée que le roi d'un peuple est l'image de son Dieu. Les pharaons, les rois assyriens, les rois babyloniens, ils avaient souvent cette prétention, en fait, d'être l'image vivante du Dieu de ce peuple. On voit là sur l'image Ramsès III, qui était connu pour assurer avec force qu'il était l'image vivante du Dieu Ra. Être l'image du Dieu, c'était ça qui donnait au roi, d'un côté, sa légitimité, parce qu'il règne parce qu'il est l'image de Dieu, mais aussi sa responsabilité. Le roi devait alors prendre soin du peuple, comme le Dieu qu'il représente prend soin de son peuple. Et puis dans la Genèse, il y a un petit twist supplémentaire, parce que là, ce n'est pas seulement le seul roi du peuple, mais c'est tous les êtres humains qui sont à l'image de Dieu et qui partagent donc ensemble le privilège d'un côté et puis la responsabilité de l'autre. En étant l'image de Dieu, les humains ont donc un double rôle qui est d'un côté montrer au monde qui est Dieu et d'un autre côté régner comme Dieu règne. Et puis ce règne que Dieu nous délègue, comme c'est une délégation, il est forcément limité, et c'est un rôle d'intendance et de gérance. Christian parlait tout à l'heure de la conclusion quand Dieu crée, qui dit « mais voilà, c'est bon, il voit que c'est bon ». Et puis cet amour de Dieu pour sa création, on le lit dans beaucoup, beaucoup de passages de la Bible. Le psaume 104, il re-raconte la création avec comme un survol de tout ce qu'on y voit. Dans Job, il y a aussi à la fois des zooms de « mais regarde la fourmi, je m'en occupe pour ceci, et puis voilà les monstres, ils sont là pour faire ceci ». On voit dans beaucoup, beaucoup de textes cet amour que Dieu a pour sa création. Et si Dieu a fait de nous des intendants, c'est bien pour que on en prenne soin et qu'on la bénisse, tout comme lui en prend soin et la bénit. La domination qu'il nous confie, c'est dans un rôle d'intendance. Dès le début, finalement, cette domination est limitée. Les êtres humains règnent sur le jardin, mais ils doivent en prendre soin, et puis ils en sont responsables, comme des reines et des rois sont responsables envers leur peuple. Moi, je viens de France où, quand les reines et les rois ne faisaient pas bien leur boulot, on leur coupait la tête. Et puis, en Genèse 1, on voit cette limitation vraiment de la domination, puisque elle ne s'étend même pas jusqu'à tuer un animal pour le manger ou pour s'en vêtir. Les humains reçoivent toute domination, c'est marqué, toute domination sur les animaux, mais ils ne peuvent manger que des céréales et des fruits. La domination est limitée dès le début et elle exclut la violence. Le deuxième passage de Genèse, qui parle du mandat culturel, il nous donne quelques éclairages en plus encore. Donc c'est dans Genèse 2, 8 à... Ouais, là j'ai enlevé quelques versets qui parlent des fleuves, mais voilà, dans 8 à 15. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Un fleuve partait du jardin d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Et un peu plus loin, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Donc on a vu que la mission que Dieu confie aux humains, c'est d'être en fait ses partenaires, de dominer en prenant soin, tout comme Dieu domine en prenant soin. Et il les invite même à participer au travail de création avec lui. Vous remarquez que Dieu crée un jardin sur un espace défini. Et il y place les humains en leur disant de cultiver la terre et de la garder, de se multiplier et de peupler toute la terre. Donc le jardin d'Éden, qui est limité à un seul endroit au début, est appelé au fur et à mesure que les humains le cultivent et se multiplient, il est appelé à grandir jusqu'à recouvrir toute la terre. Les humains se reproduisent pour faire d'autres humains qui, à leur tour, sont représentants de Dieu ou reflets de Dieu. Et en parallèle, ils sont appelés à cultiver le jardin pour le faire grandir. Et finalement, à participer à ce travail de création, à co-créer avec Dieu un jardin de plus en plus grand. Être co-créateur avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui cultivent un jardin. Vous voulez lever la main? Et donc vous savez que c'est du boulot. Alors bien sûr, il faut planter, mais il faut arroser, il faut enlever les mauvaises herbes. Si votre truc c'est la permaculture, parfois il y a une plante qui pousse toute seule et puis on la déplace pour qu'elle soit près d'autres plantes où elle poussera mieux. Il faut reconnaître les espèces envahissantes, il faut les empêcher de nuire, il faut surveiller les maladies, les insectes, les chenilles, les doryphores, le gel, la sécheresse et j'en passe. Et puis à la fin de la saison, il faut préparer son jardin pour l'hiver. Peut-être on plante du compost vert, peut-être on met du compost sur la terre, on renourrit ce jardin qui a beaucoup donné et puis on espère qu'il aura de nouveau la pêche pour l'année prochaine. Et puis, être co-créateur avec Dieu, c'est un petit peu comme cultiver un jardin. À quoi ça ressemblerait de prendre soin de la création tout entière comme on prend soin d'un jardin ? Et là, je ne parle pas seulement d'écologie, je parle de justice en général. Être co-créateur avec Dieu, c'est aussi savoir penser et puis mettre en place des structures qui limitent le chaos, qui organisent les relations et qui nous permettent de nous faire du bien les uns aux autres. Lors de la création du monde, Dieu crée du neuf, on l'a vu, il innove, mais surtout, il organise. Il trie, il sépare, il met des limites au chaos et au mal. Et à chaque fois que Dieu intervient dans l'histoire pour limiter les actes de destruction, la Bible le raconte comme un acte de création de la part de Dieu. C'est les mêmes mots qui reviennent. Donc l'œuvre de création de Dieu, elle est au niveau de la Genèse, mais on la retrouve à l'Exode, on la retrouve pour le retour d'exil. Pour les règles qui font du peuple d'Israël un peuple, tout ça, c'est considéré comme des actes de création de Dieu. Et être co-créateur avec Dieu, ça veut dire aussi mettre en place des lois, des règles qui nous permettent de bien fonctionner ensemble, de nous faire du bien les uns aux autres. Mais ça veut aussi dire s'arrêter quand on fait du mal, ou signaler aux autres qu'il faut s'arrêter parce qu'ils font du mal ou on fait du mal. Quand nous consommons des vêtements, des gadgets électroniques, aux dépens de la souffrance de nos frères et sœurs à l'autre bout du globe, quand nous produisons tellement de déchets qu'il faut les exporter pour qu'ils deviennent le problème de quelqu'un d'autre, faire acte de co-création avec Dieu, c'est aussi mettre des limites à notre consommation. Et quand la création n'arrive plus à suivre notre mode de vie, quand le changement climatique amène des tornades, des inondations, des périodes de sécheresse dans le monde entier, faire œuvre de co-création avec Dieu, c'est aussi repenser notre mode de vie. Et ça, c'est le cœur de notre mission en tant qu'être humain, en tant que porteur et porteuse de l'image de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. On est là pour montrer au monde entier qui est Dieu, en prenant soin de sa création tout entière, plantes, animaux et aussi êtres humains, en cultivant cet ordre que Dieu a créé et en limitant autant que nous le pouvons le mal et la domination. Dave Buchless, il propose trois visions de la création. Une vision égocentrique, avec l'homme tout en haut qui fait ce qu'il veut des autres créatures. Une vision écocentrique, où les êtres humains sont des animaux comme les autres. Et puis une vision théocentrique, qui propose là en forme de cœur. Et dans cette dernière approche, l'humain est placé tout en bas de la création. Pas parce qu'ils sont les moins importants, mais parce qu'ils en sont la clé de voûte. Et à l'image de Dieu qui règne en soutenant et en servant le monde, on est appelé nous aussi à régner en soutenant et en servant le monde, et pas seulement dans une perspective d'exploitation égoïste. Si nous régnons, c'est sur mandat de quelqu'un d'autre, sur mandat de Dieu qui nous a donné comme cahier des charges de prendre soin de sa création. Le mandat créationnel, en fin de compte, il nous invite à trouver notre juste place. Une juste place qui n'est ni tyrannie sur la création, ni passivité face au chaos, mais une place d'intendant qui prenne soin de la création, qui cultive l'ordre que Dieu a créé, qui mette en place des structures justes pour remplacer les structures injustes. Tout ça, ça fait partie de notre mission. Et c'est comme ça qu'on vivra à la hauteur de l'image de Dieu sur terre. C'est comme ça qu'on peut montrer à la terre entière qui est le vrai roi que nous servons. La terre appartient à Dieu, qui l'a créée entre autres pour que nous y trouvions du plaisir, mais pas que. Il l'a créée pour le Christ et par lui. La finalité de la création tout entière, c'est Christ, et un jour, nous devrons rendre compte de ce rôle d'intendant. Je vous invite à prendre un petit moment de silence, que je clôturerai par la prière. Seigneur, tu nous as créés comme des images de toi pour montrer à la terre entière qui tu es. Montre-nous la vie que tu veux qu'on vive. Et dans ce monde toujours plus complexe, aide-nous à être tes intendants, à trouver notre juste place en tant qu'être humain, à remplir la mission que tu nous as confiée. Seigneur, c'est toi qui tiens le monde entier dans tes mains et nous voulons rendre gloire à ton nom. Que ton règne vienne. Amen.